Il est 13h sur France Inter, c'est l'heure du journal. Bonjour Christophe Beck.
Bonjour, bonjour à tous. Des rafales de mitraillettes dans une station de lavage d'Olioul dans le Var hier soir. Un règlement de compte qui fait 3 morts, dont une touriste de 57 ans, victime collatérale. Son mari est hospitalisé dans un état grave. Nous irons à Olioul au début de ce journal. Les autorités ont-elles cédé à la tentation de mettre la poussière sous le tapis à propos d'une possible pollution au plomb suite à l'incendie de la cathédrale de Paris? L'association Robin des Bois porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Nous serons en ligne avec l'une des spécialistes des cancers professionnels, Annie Thébaumoni, directrice de recherche à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Hong Kong, après un nouveau week-end de manifestations, les autorités chinoises sortent de leur silence pour défendre les autorités locales, mais avec une relative retenue. Le Wi-Fi arrive à Cuba, mais à grand prix et sous contrôle de l'entreprise d'État de télécommunications. Le Tour de France, Alaphilippe héros français de cette édition 2019 avec Thibaut Pinot. Mais Alaphilippe pouvait-il l'emporter face à l'Armada Ineos, Fabrice Rigobert?
Les fans ont rêvé, il a tout tenté pour garder le maillot jaune, mais il a craqué. Des changements sont à opérer pour mettre fin à l'attente qui dure depuis 1985 et le dernier succès de Bernard Hinault.
On en reparle à la fin de ce journal. Enfin, Étretat toujours sous la punition d'une interdiction de baignade après l'incendie d'une station d'épuration il y a 10 jours. Sur place, la colère gronde. La météo, du vent à l'ouest et du bois ailleurs, Sébastien Léas.
Oui, effectivement, grand soleil et température estivale avec 25 à 32 degrés sur la majeure partie du pays pour cet après-midi. Une perturbation pluvieuse approche de la Bretagne et un coup de vent est attendu. Le vent sera soutenu dès cet après-midi avec même quelques averses, mais de plus fortes rafales jusqu'à plus de 100 km/h souffleront la nuit prochaine.
Voilà, prévision complète à la fin de ce journal.
France Inter.
La consternation et la colère à Olioul dans le Var après cette fusillade qui s'apparente à un règlement de compte hier vers 20h30. Comme un bruit de rideau de fer, plusieurs tireurs font feu sur 2 hommes de 29 et 30 ans. Connus pour des affaires de stupéfiants, ils sont tués sur le coup. Mais la fusillade fait 2 victimes collatérales. Un couple de touristes qui circulait à scooter, la femme de 57 ans a succombé à une balle perdue et son mari, âgé de 58 ans, est grièvement blessé. Le reportage sur place à Olioul d'Isabelle Dor.
C'est à la station de lavage près des pompes à essence que la fusillade a éclaté hier soir. Le patron, Éric Michel, est atterré.
C'est le choc, hein, depuis hier soir. On est tout retourné, c'est le choc. Hein. Des jeunes ont tiré à partir de la station, cachés dessous, qui sont sortis et sur du lavage, et puis en tirant vers la route.
Les assaillants ont tiré de là où on se trouve.
Oui, sur le côté là, oui. Parce que j'avais encore du sang ici. Donc ils ont tiré dans cette direction, vers le rond-point. Là.
2 des victimes, celles qui étaient visées, se sont effondrées là où il y a du sang, après l'aspirateur.
Oui, certainement là, oui. Et la balle perdue, le scooter malheureusement, sur le rond-point. On n'avait pas de personnel, donc il n'y avait personne de la station.
Vous, madame, vous venez vous ravitailler dans cette station?
Non, j'habite pas loin du tout, juste à 100 mètres plus loin. J'ai des enfants, j'ai ma petite qui des fois me demande d'aller au parc. Je l'ai laissée aller jusqu'à présent, mais là maintenant, ça va être fini. Hein. Je ne pourrai plus la laisser.
Vous pensez que c'est quelque chose qui peut se reproduire?
Je pense, oui. On se dit même que ça aurait pu être ma fille. Paf, elle se prenait une balle perdue. Ah oui, on est terrifiés.
Et il y a de quoi. Les assaillants ont littéralement arrosé la zone. On voit des impacts de balles jusque sur le panneau publicitaire et l'immeuble en face de la station. Olioul, Isabelle Dor, France Inter.
Voilà, l'homme de 58 ans, grièvement blessé dans cette fusillade, n'est plus en danger de mort. Selon France Bleu Provence, son pronostic vital a été levé après une opération ce matin. Le couple est originaire de Vesoul, en Haute-Saône. La femme décédée était responsable d'une fromagerie à Maillet. Y a-t-il un danger de contamination au plomb après l'incendie de la cathédrale de Paris le 15 avril dernier? Les autorités, agence régionale de santé, préfecture de police et mairie de Paris martèlent que non. L'association Robin des Bois est convaincue du contraire. Elle a déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Entre la toiture et la flèche de la cathédrale, ce sont près de 400 tonnes de plomb qui ont pris feu et se sont échappées sous forme de poussière. Annie Thébaumoni, bonjour.
Bonjour.
À l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, vous dirigez l'unité consacrée au cancer d'origine professionnelle. Alors, le 19 juillet dernier, les autorités assuraient que les populations parisiennes ont été préservées de ce risque plomb après l'incendie de la cathédrale. Peut-on les croire?
Non, en fait, il y a un réel problème de pollution par ces poussières de plomb. Et sachant que le plomb, il n'y a pas de seuil en dessous duquel il ne soit pas dangereux.
Est-ce que des mesures ont été faites dès le début? Comment ça s'est passé pour l'observation justement de cette dissipation des poussières?
Bah écoutez, on apprend par bribes ce qu'il en est. Je viens de consulter sur le site de l'ARS la carte qui vient d'être rendue publique en juillet, donc plus de 3 mois après la catastrophe. En fait, vous avez encore de la pollution, non seulement bien sûr sur le site même, et à l'extérieur sur le parvis, mais dans le 5e, dans le 6e arrondissement, avec des mesures de contamination très importantes, notamment celles qui ont été faites par le laboratoire de la préfecture de police de Paris.
Est-ce que ces mesures ont été faites dès l'incendie, dès le lendemain de l'incendie, ou il a fallu attendre un peu?
Ben, on a l'impression que ça n'a pas été fait dès le début. Les mesures les plus précoces sont celles, effectivement, de la préfecture de police. Ce que nous regrettons en particulier, l'association Henri Pézra et l'association des familles victimes du Saturnisme, c'est le fait qu'il n'y ait pas une cartographie suivie qui permette de voir s'il y a une véritable décroissance ou si on est encore avec des poussières issues de toute la pollution qui est au cœur de Notre-Dame et qui entoure Notre-Dame.
Est-ce que cette plainte de l'association Robin des Bois peut justement conduire éventuellement à la mise en place de cette cartographie?
Écoutez, je pense que déjà l'action qui a été menée par les 3 associations depuis la fin avril a peut-être aidé à ce que des précautions soient prises. La plainte est certainement un outil pour montrer aux autorités que les associations n'ont pas l'intention simplement de dire qu'il y a un danger, mais je dirais que au-delà de ça, il y a des mesures que nous avons préconisées depuis le départ, qui est la protection des travailleurs sur le site, la protection des nettoyeurs et de tous les travailleurs qui entourent Notre-Dame, la protection bien sûr des riverains, des enfants en particulier, et c'est toutes ces mesures-là que nous attendons, et la plainte est certainement un outil pour y arriver.
Et alors justement, quels sont les risques précisément pour la santé de ces personnes exposées au plomb? Vous parliez des travailleurs, des riverains, quels sont les risques concrets?
Alors les risques concrets, c'est à très forte dose, et je pense aux travailleurs, il peut y avoir des troubles immédiats qui sont malheureusement très peu spécifiques. Ça peut être des troubles digestifs, des céphalées, des vomissements quand l'intoxication est très forte. Le plus grave danger, c'est très faible dose, les dangers neurologiques pour les enfants et pour les adultes, les dangers sur la reproduction, qu'on appelle c'est un risque reprotoxique, les dangers cardiovasculaires et le danger cancérogène. Et alors, sachant que ce sont des symptômes qui peuvent se révéler des années, des décennies après l'exposition.
On a fermé 2 écoles proches de la cathédrale, dans le 6e arrondissement, qui accueillent des enfants en centre de loisirs. C'est une mesure tardive, trop tardive selon vous?
Ah, moi, je trouve qu'elle est trop tardive. Moi, je pensais qu'avec la pollution qui est arrivée, il fallait fermer les écoles et les crèches dès le lendemain de la catastrophe, faire un travail bien sûr de nettoyage, mais en protégeant bien sûr les personnels qui le font, et ensuite en mesurant de façon à être sûr que les enfants ne sont pas exposés. Or, manifestement, ils l'ont été. Et dès lors, oui, pardon.
Oui, je voulais vous remercier, Annie Thébault. Moni, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Juste dire qu'il faut un suivi, et pas seulement un dépistage, mais un suivi des personnes qui ont subi cette contamination au plomb.
Merci beaucoup Annie Thébault-Moni, directrice de recherche honoraire à l'INSERM. En politique, la difficile entente électorale entre La République En Marche et son allié du Modem en vue des prochaines municipales. Les deux formations font cause commune au niveau national, mais au niveau local, il y a des fissures. Dans certaines villes, le parti d'Emmanuel Macron a investi des candidats face à des prétendants centristes. Dans d'autres, des marcheurs font campagne contre une équipe municipale en place où figurent des élus Modem. L'Alliance est donc le cas de figure majoritaire, mais dans certaines villes dont les investitures seront tranchées à la rentrée, l'été s'annonce tendu, Thomas Schoner.
Les divergences, elles existent, elles sont actées à Bordeaux par exemple ou à Dijon. Des conseillers municipaux modem sont dans les majorités sortantes. Pas question de renier leur bilan et de soutenir un candidat à La République En Marche. À Aix-en-Provence, c'est un peu différent. L'AREM vient d'investir la députée Anne-Laurence Pétel. Son collègue centriste Mohamed Lakhila n'apprécie pas.
Moi je suis candidat déclaré depuis septembre, donc on ne voit pas comment on peut arrêter quelque chose qui a été lancé avec une équipe autour d'un projet. Je tends d'ailleurs la main à ma collègue d'En Marche. J'espère qu'elle entendra raison et qu'elle nous rejoindra d'ici la fin de l'année.
Le MoDem, promis, ne veut pas politiser ce scrutin. Son objectif, c'est de consolider son assise locale. Ce n'est pas le même enjeu pour le parti d'Emmanuel Macron, dont ce sont les premières élections municipales. Le député LREM Richard Lioger est candidat à la candidature à Metz.
Une structure d'élus locaux, on sait l'importance que ça a pour d'abord les élections sénatoriales plus tard, et puis parce que pour l'instant, on a des gens qui sont République En Marche, qui sont maires, adjoints, etc., mais qui n'ont pas été élus comme tels, et là maintenant, il faut que ce soit très clair.
Rien n'est figé, nous assure-t-on. Chaque parti compare les dynamiques entre les candidats déclarés. Le MoDem donnera le nom de ses têtes de liste au mois de septembre.
À Perpignan, une enquête a été ouverte après le saccage ce week-end de la permanence parlementaire du député La République En Marche, Romain Gros. En marge d'une manifestation gilet jaune, Aurore Berger, la porte-parole de La République En Marche, dénonce ce matin un climat malsain et nauséabond. C'est la deuxième fusillade de grande ampleur en moins d'un an en Californie. Un tireur s'est introduit hier dans le périmètre d'un festival de gastronomie consacré à l'ail, à Gilroy, à 120 km au sud de San Francisco. Il a ouvert le feu sur la foule, faisant 3 morts, dont un garçon de 6 ans et 15 blessés, avant d'être abattu très rapidement par des policiers présents sur place. En novembre dernier, un ancien marine avait abattu 12 personnes dans un bar au nord de Los Angeles. La Californie, Loïc Piala, pourtant présentée comme un exemple en matière de législation sur les armes.
Depuis le 1er juillet, quiconque veut acheter des munitions en Californie doit se soumettre à une vérification de ses antécédents. L'exemple le plus récent de l'encadrement législatif du port d'armes dans le Golden State, plus strict que presque partout ailleurs dans le pays. Il faut notamment un délai de 10 jours entre l'achat d'une arme et son obtention. Mais il est aussi possible dans tout l'État d'avoir une arme sur soi à condition qu'elle reste cachée et de posséder un permis. Permis qui, lui, ne sera pas accordé partout dans l'État. Les régions rurales ont tendance à être plus laxistes que les grandes villes sur le sujet. Et justement, Gilroy, la ville où a eu lieu la fusillade de dimanche, se situe dans une région rurale. L'agriculture en est l'une des principales économies, d'où ce festival de l'ail qui rassemble des dizaines de milliers de personnes depuis 40 ans. Le festival lui-même était une gun-free zone, ce qui signifie que les armes y étaient interdites, mais le tireur a, semble-t-il, réussi à contourner la sécurité en découpant un grillage. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Le choc des contraires. Boris Johnson fera sa première visite officielle en Écosse aujourd'hui sur le thème de l'union du Royaume-Uni. Lui, fervent défenseur d'un Brexit dur, dans une Écosse qui a voté pour le maintien dans l'union et menace de faire sécession. Le Brexit et ses conséquences économiques. En France, le président de PSA, Carlos Tavares, affirme ce matin que son groupe est prêt à tirer un trait sur l'usine britannique d'Elsmerport en cas de confirmation d'un Brexit dur avec un transfert de l'unité de production en Europe continentale. Sa parole est rare, elle était donc attendue et scrutée. La Chine s'est exprimée ce matin par la voix de son bureau des affaires de Hong Kong. Après les manifestations ces derniers mois et ces derniers jours, des dizaines de protestataires ont encore été arrêtés ce week-end. Le bureau des affaires de Hong Kong soutient la police, Simon Le Plâtre, mais se garde de toute escalade verbale.
Un grand malentendu. Après 8 semaines de mobilisation, la Chine a expliqué cet après-midi que les Hongkongais ne connaissaient pas bien la loi chinoise, d'où leur crainte face au projet de loi d'extradition vers la Chine. Sans doute pas de quoi apaiser les Hongkongais qui craignent d'être à la merci des tribunaux chinois à la botte du pouvoir communiste. Aujourd'hui, la priorité pour Hong Kong doit être de punir les violences et les actes illégaux, de restaurer l'ordre social le plus vite possible et de maintenir un environnement favorable pour les affaires, a déclaré le porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong, l'agence chinoise responsable de ce territoire autonome. C'est la première fois que l'agence organisait une conférence de presse. Elle faisait suite à un nouveau week-end de manifestations et de violences à Hong Kong. Alors que le mouvement s'inscrit dans la durée, la frustration monte chez les manifestants devant l'absence de réponse des autorités. À chaque fois, le niveau de violence semble augmenter un peu. À Hong Kong, Simon Le Plâtre pour France Inter.
Une petite révolution à Cuba avec l'arrivée aujourd'hui du Wi-Fi chez les particuliers, mais une révolution de velours car ces réseaux privés devront passer sous le contrôle de l'opérateur d'État, Etexa, avec un coût de communication souvent dissuasif pour le Cubain moyen. À La Havane, le reportage de Domiti Piron.
Elady Sanchez fréquente les parcs Wi-Fi régulièrement. Elle travaille à son compte et peut se permettre de payer de temps en temps $1 l'heure de connexion.
C'est cher et en plus avec le système de la double monnaie, on ne peut pas payer avec le salaire qu'on touche. Tout le monde n'y a pas accès.
Même si le prix ne change pas, elle préférerait avoir le Wi-Fi chez elle, comme le font déjà beaucoup de Cubains. Osmani en a d'ailleurs fait son business. Il capte le signal des parcs, géré par l'entreprise d'État des télécommunications et Etexa, pour le redistribuer dans son quartier.
D'après les clients, c'est un service qui est meilleur que celui d'Etexa. Etexa fournit une connexion de 2 mégas et nous offrons entre 4 et 6 mégas.
Une connexion plus rapide et moins chère, mais que l'État ne maîtrise pas. Pour mettre fin à un flou juridique, le gouvernement impose donc des règles peu claires, une zone de captation limitée et une liste d'équipements autorisés à l'importation. Franck Matos est un passionné des nouvelles technologies.
Cela concernera bien peu de monde s'il faut capter le signal dans un rayon de 300 mètres. Il n'y a que 200 parcs à La Havane et ils sont très éloignés les uns des autres.
Dans ces conditions, les Cubains, peu informés de cette nouvelle législation, ne semblent pas prêts d'abandonner les parcs pour le Wi-Fi à la maison, d'autant qu'à Cuba, l'accès à certains sites internet reste bloqué. Domitille Piron, La Havane pour France Inter.
Et si vous souhaitez poursuivre la réflexion sur ce sujet, à quoi ressemble le net dans les pays autoritaires? Une enquête à retrouver sur franceinter.fr. Interrogation en Russie après la curieuse allergie dont souffre l'opposant Alexei Navalny, hospitalisé depuis sa cellule de prison pour son médecin personnel. Navalny a été vraisemblablement victime d'un agent toxique. Il avait été renvoyé en prison mercredi, à 2 jours du grand rassemblement de l'opposition à Moscou pour des élections libres. Il devrait quitter l'hôpital cet après-midi. L'Allemagne a appelé ce matin à la libération immédiate du millier de manifestants, voire davantage, arrêtés durant le week-end à Moscou. Retour à présent sur le Tour de France. Il aura été l'un des principaux animateurs de cette édition 2019. Vainqueur de 2 étapes et maillot jaune pendant 14 jours, le Français Julian Alaphilippe. Élu super combatif hier soir sur les Champs-Élysées pour sa constance et son énergie. Animateur de cette édition 2019, mais seulement 5e au général. Fabrice Rigobert, bonjour.
Bonjour.
Julian Alaphilippe, pouvait-il gagner face à l'armada d'Ineos qui a permis le sacre du jeune Colombien Egan Bernal?
Tous les passionnés de cyclisme ont été tenus en haleine quand le coureur de Saint-Amand-Montrond a porté le maillot jaune 14 jours durant, mais la logique sportive l'a finalement emporté, comme Julian Alaphilippe l'avait d'ailleurs toujours laissé entendre. Lui, le coureur de classique, coureur d'épreuve d'une semaine, même s'il a remporté le classement de la montagne l'année passée, n'est pas un pur grimpeur et il a répété à l'envi qu'il allait finir par C'est ce qui s'est passé et son équipe n'était pas non plus faite pour rivaliser avec les meilleurs. Il a craqué une première fois dans les Pyrénées, une deuxième sur les pentes de l'Iseran. Il n'était sans doute pas la meilleure chance de succès, contrairement à Thibaut Pinot, qui a été lui contraint à l'abandon après avoir prouvé sur les pentes du Tourmalet qu'il était le plus fort en montagne à ce moment de la course.
Alors que faut-il changer côté français pour pouvoir prétendre à la première marche du podium l'année prochaine?
Julian Alaphilippe doit prendre la décision de se préparer spécifiquement pour les courses de 3 semaines, quitte à abandonner les classiques, ce qui n'est pas vraiment sa volonté puisqu'il aimerait maintenant briller dans les Flandriennes. Il lui faudrait aussi avoir une équipe constituée autour de lui avec de très bons grimpeurs. S'il ne change pas son fusil d'épaule, Thibaut Pinot, Romain Bardet resteront les meilleures chances de succès tricolore à condition de continuer à progresser dans les contre-la-montre notamment. L'argent est aussi une clé. Ineos, avec le plus gros budget, peut se permettre de recruter les meilleurs coureurs en développant parallèlement son secteur performance dans la chasse aux gains marginaux. Cela explique la supériorité de l'équipe britannique.
Fabrice Rigobert, merci. Le Tour de France a fait recette hier soir sur France 2 avec 5,7 millions de téléspectateurs pour suivre l'arrivée sur les Champs-Élysées, permettant à la chaîne de se placer en tête des audiences. Une mer souillée par des eaux usées à Étretat. L'interdiction de baignade commence à durer en pleine saison estivale. Elle est en vigueur depuis plus de 10 jours après l'incendie de cette station d'épuration. Étretat, toujours privé d'accès à la mer alors que les plages voisines d'Yport, Le Tilleul et Vatelot ont retrouvé leurs baigneurs. Étretat où la colère des commerçants et autres acteurs du tourisme gronde, Romain Chevalier.
Dans ce magasin de bord de mer, tous les articles de plage sont devenus invendables. L'interdiction de baignade qui dure maintenant depuis plus de 10 jours a des conséquences très néfastes. Valérie, le propriétaire.
Les chaussures, c'est 10-12 euros la paire. Quand on vend des centaines de paires dans la journée, bon, hein,
Je parle pas de chiffres, mais voilà, ça monte vite.
Dans un hôtel du centre-ville, Alison, la réceptionniste, a elle aussi dû faire face à des mauvaises nouvelles de dernière minute.
On a eu quelques annulations, puis d'autres clients qui arrivent à l'hôtel et qui sont déçus parce qu'il n'y a pas de baignade acceptée à être tard.
Car les sauveteurs veillent au grain. À chaque fois que quelqu'un tente de se baigner dans la zone surveillée, ils mettent un coup de corne de brume. Mais certains touristes bravent l'interdiction et rentrent dans l'eau en dehors de ce périmètre, à l'image d'Idir Rechakib, venu de région parisienne.
Ça fait une année qu'on n'a pas touché à l'eau salée, du coup. Ça manque un peu à notre corps.
Bah, on a fait 2 heures pour se baigner, alors on va se baigner.
Même s'il y a une interdiction, tant pis.
Bah, tant pis. Je crois pas qu'il y ait vraiment un risque à considérer à prendre. Mais bon. Autrement, il y aurait eu beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de sapeurs-pompiers, peut-être, pour dire que c'est vraiment interdit.
Aujourd'hui, cette interdiction relève surtout du principe de précaution. Les autorités veulent écarter tout risque de santé publique.
De nouvelles analyses de l'eau sont programmées cette semaine. Elles pourraient décider enfin d'une levée de l'interdiction en milieu de semaine.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Ça souffle à l'ouest, plutôt beau ailleurs, Sébastien Léas.
Cet après-midi, c'est le soleil qui règne sans partage sur la majeure partie du pays. On note juste quelques petits bourgeonnements nuageux sur le relief des Vosges, du Jura et des Alpes, ainsi que vers le Boulonnais, mais les éclaircies restent malgré tout belles et prédominantes. En revanche, des nuages bas envahissent le Pays basque, gagnant vers les Hautes-Pyrénées avant la fin de journée, puis vers l'Ariège en soirée. Le temps est encore plus perturbé en Bretagne, puisqu'on attend un coup de vent associé à une dépression circulant en Manche. Dès cet après-midi, les rafales avoisinent 70 à 80 km par heure et les nuages s'accumulent, donnant même des averses. Cette perturbation va progresser sur le pays la nuit prochaine, amenant des nuages sur toute la façade ouest. En Bretagne, le vent va encore se renforcer, avec des pointes pouvant dépasser 100 km par heure sur les côtes, et des orages pourront éclater. Ce coup de vent se fera ressentir sur tout le quart nord-ouest demain, avec des rafales de 60 à 80 km par heure dans les terres, et localement plus sur le littoral de la Manche. Cet après-midi, les maximales affichent 25 à 32 degrés, mais il ne fait que 21 à 26 degrés en Bretagne.